Radio Okapi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui des préparatifs de la rentrée scolaire, comment s'y prendre. En ligne, Paul Mboula, éducateur à la vie. Paul Mboula, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour les amis auditeurs.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Des questions et préoccupations, vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien? Eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Patrick Yassongwa sur la technique, Tati Mapuku à la réalisation, Marcel Ngombo coordonne cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 qui a été initialement fixée au 5 octobre. Elle est finalement reportée au 12 octobre 2020. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et l'intersyndicale des enseignants ont levé l'option de clôturer l'année en cours pour les classes montantes en faisant la moyenne des points de chaque élève pour les faire passer ou pas dans la classe supérieure. Dans les écoles, les préparatifs vont bon train, tests d'admission, paiement de la première tranche des frais scolaires, etc. Alors comment bien préparer cette rentrée scolaire dans le contexte de Covid-19? Paul Mboula, éducateur à la vie, est notre premier invité. Paul Mboula, la grande question est de savoir, vous savez, cette année a été perturbée par cette pandémie. Les enfants sont restés à la maison pendant près de 5 mois et on annonce déjà la rentrée scolaire pour le 12 octobre. Alors comment les parents, les élèves, les éducateurs, comment peut-on se préparer à cet événement?
Merci beaucoup pour cette invitation. Je dirais que, comme vous l'avez dit, l'année s'est terminée plus ou moins en catastrophe à cause de la pandémie, mais c'était un souci de tous de savoir par où nous allions finalement atterrir, parce que on se disait, est-ce qu'il y aurait année blanche ou pas, et comme ça n'a pas eu lieu, ça a été une gaffe avec les réalités qui l'entour. Mais en ce qui concerne la préparation, nous savons que il y a toujours une préparation matérielle, une préparation psychologique également, et une préparation financière. Et qui entoure toutes ces préparations, et qu'il y a plus ou moins des difficultés pour les parents qui eux aussi ont subi et continuent à subir les conséquences de la pandémie. Mais il faut avoir une psychologie assez dynamique, assez renforcée, parce que ce qu'on a attendu est finalement venu. Il y aura une nouvelle année scolaire. Mais en ce qui concerne la préparation matérielle, je commencerai par là parce que tout le monde voudrait avoir un cœur net. La préparation n'est pas uniforme dans la mesure où le pays est assez diversifié et les réalités de la pandémie n'ont pas été les mêmes. Dans la tradition, nous savons que il faut pas toujours attendre le lendemain pour aller à l'école, visiter l'école et savoir ce qu'on demande. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de s'assurer que l'enfant sera réadmis dans son école. Autre chose, les parents doivent s'assurer également que l'enfant est en bonne santé et quand il va recommencer le cours, il n'aura pas de problème. les outils
Paul Mboula, et pourquoi, oui. Pourquoi parler de la réadmission dans une école? Parce que l'enfant a étudié dans une école. Et est-ce qu'il y a encore besoin d'aller confirmer que l'enfant est là ou pas?
Je dis, on ne doit pas se cacher la face. C'est une réalité dans beaucoup d'écoles, particulièrement les écoles privées. Ils ont toujours demandé que l'enfant aille, que les parents aillent confirmer, parce que on ne sait pas laisser une place vide en attendant un élève qui n'est pas venu confirmer. Autre chose, c'est que parfois ça s'accompagne un peu de frais. Là, je crois que le gouvernement tient l'œil pour que il n'y ait pas ce frais là, mais aller confirmer, c'est une obligation.
Voilà, c'est une obligation. Et surtout, il y a des enfants, des parents qui peut-être préfèrent changer les écoles de leurs enfants. Ils vont quitter d'une école à une autre. Il y a des tests, il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, il y a des choses à faire et l'élève peut-être changer d'école, mais aussi les parents, comme toute la famille, peut se déplacer avec les réalités de loyer, ils peuvent se déplacer, alors l'école risque de garder une place pour un élève qui ne viendra presque jamais. C'est pourquoi généralement on demande qu'on aille confirmer ne nécessiterait pas normalement de l'argent, mais c'est s'assurer que l'élève va passer, et on va laisser les billets de vacances pour s'assurer que l'enfant va reprendre. Donc il y a cette préparation qui est obligatoire du rapport école et famille.
Voilà. Donc, il y a aussi les inscriptions. Par exemple, vous avez donné les cas d'une famille qui s'est déplacée d'une commune à une autre. Et évidemment, et il faut trouver une école où inscrire les enfants. À ces jours, est-ce que ce n'est pas tard déjà?
Bon, c'est pas encore trop tard, parce que l'année finissant n'a pas été clémente pour tout le monde. On a eu finalement on a été brusqués, et ceux qui veulent changer d'école, ceux qui n'ont pas été brillants et pour telle ou telle raison et qui sont obligés de changer, c'est le moment. J'ai des cas de personnes qui n'ont pas eu les moyens pour terminer l'année et qui ont changé de camp, par exemple quelqu'un qui part de Yolo et qui se retrouve en passe. Et à un moment donné, l'enfant n'a pas étudié, il n'a pas fait les TENAFEP et il se retrouve là-bas. Donc il faut rentrer dans l'école où il a passé la cinquième année et pour trouver une place en passe. Donc l'inscription d'abord pour ceux qui passent de classe, mais aussi l'inscription pour les débutants. Là, il y a un grand travail psychologique à faire. Il faut aller avec l'enfant, notamment ceux qui entrent en maternelle pour la première fois ou qui vont à l'école primaire pour la première fois, ou même ceux qui font les secondaires pour la première fois. Ils ont besoin de connaître l'environnement dans lequel ils vont évoluer, visiter les classes, voir où se trouvent les bureaux, et le parent qui aiderait bien son enfant verra que l'enfant va aimer étudier, parce que une des raisons de déscolarisation, c'est que l'enfant peut ne pas aimer l'environnement dans lequel on l'a placé.
Voilà. Il y a un problème dans les écoles. Bon nombre d'écoles ont clôturé l'année alors que les enfants ont passé presque 5 mois à la maison. On vous dit, bon, on a fait juste la moyenne et on demande aux parents de venir apurer les restes des frais scolaires, la dernière tranche. Et certains parents hésitent encore. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on va les payer alors que les enfants n'ont pas étudié?
Oui, les frais concernent généralement les salaires des enseignants. Ici, il s'agit particulièrement de ceux qui sont dans les écoles privées. Pendant qu'il y a eu cessation de cours, il y a eu des enseignants qui étaient payés avec les moyens dont disposait l'école. Et s'il y en a qui ne sont pas encore rémunérés, ils vont exiger certainement d'être payés pour les mois pour lesquels ils n'ont pas été payés. Les chefs d'établissement, certes, vont justifier l'impayement par l'impayement de frais par les parents. Donc ça fait un nouveau problème. C'est normal que les parents s'inquiètent, mais c'est dans la logique que si l'enfant garde sa place dans l'école.
Voilà. Et quelle attitude les parents doivent adopter? Faut-il payer ou pas, Paul Mboula?
Bon, comme on dit toujours, c'est les parents qui choisissent l'école de l'enfant. Il est libre de choisir l'école de son enfant. S'il a opté pour une école privée, on ne va pas le lui empêcher et il doit se soumettre aux exigences de l'école privée. Mais pour les écoles publiques conventionnées ou officielles, on ne voit pas pourquoi est-ce que ça ferait problème parce que les enseignants ont été payés et surtout à l'école primaire, l'enseignement a été déclaré gratuit.
Bien, préparatif de la rentrée scolaire, comment s'y prendre? On en parle avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Vous avez dit que la préparation de la rentrée s'est faite à trois niveaux, au niveau matériel, psychologique et financier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à la préparation psychologique, Paul Mboula?
Oui, j'avais commencé par là, hein, l'enfant a besoin de connaître l'environnement scolaire. Mais en même temps, il doit réaliser que on lui demandera un peu d'effort supplémentaire l'année qui commence. Et là, si à la maison, on peut déjà reprendre les bonnes habitudes de réviser un peu les matières de l'année passée, ça serait déjà une bonne préparation de l'enfant à la reprise de cours. Et lorsque nous avons payé les frais ou nous avons acheter les moyens pour préparer l'enfant à rentrer, nous avons déjà amorcé là une préparation psychologique. L'enfant va réaliser que certainement cette année, il doit encore étudier, mais les conditions sont réunies. Ça, c'est pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Les parents doivent aussi se préparer psychologiquement. Vous savez que avec l'environnement dans lequel nous sommes, il n'est pas évident que l'on réussisse à faire rentrer tous les enfants. C'est très difficile de scolariser 4, 5, 6 enfants lorsque dans le contexte africain, il y a d'autres enfants qui ne sont pas dans la famille et pour qui nous devons également intervenir. Il faudra que les couples se soutiennent. C'est un moment particulièrement difficile de l'année scolaire. Il faut réunir tout ce que nous avons dit en termes de matériel et en termes d'instruction, mais il faut aussi que, dès la rentrée, l'on soit capable de payer les frais de transport pour ceux qui vont loin. Il faut être capable de les nourrir malgré les autres exigences. Il faut être capable de les soigner et de les habiller. Ça fait partie des exigences de psychologiques auxquelles doivent se soumettre les parents pour qu'ils puissent aider leur enfant à reprendre les études en bonne et due forme.
Bien, préparatif de la rentrée scolaire 2020-2021, comment s'y prendre? Nous avons un auditeur en ligne, David Kabea, depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, David?
Absolument, j'avais seulement voulu dire que si on retardait la rentrée scolaire pour la crise due à la pandémie de la coronavirus, cela ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'en RDC, nous avons un taux d'enfants tellement élevé. Alors si on retardait, on va vraiment augmenter les taux d'analphabétisme au Congo. D'après moi, j'avais voulu aussi dire aux parents qui sont en train de nous suivre en ce moment qu'ils doivent aussi s'intégrer dans l'éducation de leurs enfants afin de les envoyer à l'école. Par exemple, ici au village où je me trouve à ce moment, à Chintumwanza, au Kasaï oriental précisément, il y a vraiment d'autres écoles qui ne sont pas encore mécanisées. Alors, je demanderai aussi aux parents de s'intégrer aussi dans l'éducation de leurs enfants, afin qu'ils puissent aussi payer les écoles, les enseignants qui encadrent leurs enfants. Si on retardait vraiment la chose, ça ne peut pas marcher. Je demande aussi, de cette occasion, je demande au gouvernement, aussi au ministre de l'enseignement, de pouvoir renforcer la mesure et de faire de sorte que la rentrée scolaire soit toujours active. Il n'y a pas moyen de retarder. Nous sommes là, nous les enseignants, quand je parle ici, je suis enseignant, Kabeyama ou David, au Kasaï oriental. Je veux que la rentrée scolaire soit là, même si nous ne sommes pas mécanisés, nous sommes là disposés à enseigner les enfants pour lutter avec l'analphabétisme au Congo. Nous sommes tellement en retard, monsieur.
Bien, merci David Kabeya depuis Mbujimayi et non depuis Kananga. Paul Mboula, qu'est-ce que vous pouvez dire à David?
Bien que le sujet n'est pas du jour, parce que nous n'avons pas cherché à retarder
la rentrée scolaire, oui.
Mais
il y a des syndicats, des enseignants qui conditionnent la rentrée, la reprise des classes par le paiement des enseignants, des nouvelles unités. Ça, on le sait bien.
Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal, et le gouvernement peut-être fait un effort dans ce sens-là pour aider les enfants à être reçus dans les meilleures conditions, malgré les difficultés qui peuvent entourer la décision de payer tous les enseignants. La motivation, je l'apprécie quand l'enseignant qui a mis longtemps... Vous savez que c'est comme votre métier de journaliste. Quand vous n'exercez pas, vous vous sentez plus ou moins dépossédé. C'est pourquoi il a raison que l'on rentre vite dans notre métier. Ça fait beau d'être avec ses enfants, payé ou non payé, mais quand on aime son métier, on le fait. Donc, je suis bien d'accord avec David. Donc, il a très bien réagi. Il est motivé pour reprendre le cours. Le gouvernement qui nous écoute sait aussi que c'est une de ses obligations. Et nous n'allons pas normalement nous dérober ou encore encourager qu'on ne paye pas les enseignants. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est surtout cette préparation de l'enseignant. Si l'enseignant lui aussi est psychologiquement disposé à donner cours, je ne crois pas qu'il ira vendre les beignets comme on en a vu ou les biscuits dans la classe, mais il va travailler pour que ce qui n'a pas été enseigné, surtout qu'on dit qu'il faut récupérer les matières non vues dans les classes antérieures, puisse donner le meilleur de lui-même afin que nous ayons les résultats escomptés. Il ne s'agit pas seulement de rentrer, mais il s'agit de donner le meilleur de soi-même pour qu'à la fin, quand on évalue les enfants, qu'on ne vive pas ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux ou à la radio, à la télévision, dans les médias, hein, un enfant qui termine mais qui n'est pas capable de défendre son résultat.
Bien. On va accueillir Marius depuis Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue, Marius. Nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021. Quelle est votre préoccupation?
Merci d'abord, monsieur le journaliste, de m'associer à la thématique du jour. Merci aussi à l'invité. Alors, selon moi, monsieur le journaliste, d'abord, l'État devrait préciser à la désaffectation de toutes les écoles. Alors, l'État devrait aussi allouer un fonds nécessaire, en tout cas, afin d'aider les parents. Vous voyez, la pandémie du coronavirus a tellement appauvri la population, sinon les parents ne s'en sortiront pas. Malgré qu'ils ont tellement baissé, dans le monde entier, en tout cas, même un parent analphabète, il a toujours besoin d'envoyer son enfant à l'école. Alors l'État devrait quand même payer aussi les enseignants, ni songer aussi aux écoles privées qui n'ont pas encore des moyens nécessaires pour le démarrage du cours. C'était ça ma préoccupation, monsieur Tassi.
Bien, merci Marius de Kolwezi. Et il dit que l'État devrait désinfecter les écoles et puis soutenir les parents qui ont été appauvris pendant cette période de la pandémie, parce que beaucoup de activités, leurs activités n'ont pas bien fonctionné. Paul Mboula, vous avez la parole.
Oui, je dis, nous sommes dans le contexte réel de notre pays. Il est évident qu'à beaucoup d'endroits, vous allez à Tchikapa, les mamans sur la tête la friperie pour trouver de quoi faire nourrir leurs enfants. Vous êtes à Kikwit, un peu de Sakasaka, vous êtes en Mbandaka, la maman doit se déplacer pour de longues distances pour obtenir de quoi faire vivre la famille. Ça, c'est évident. Et le travail, la bonne décision qui a été prise pour la gratuité de l'enseignement est encourageante, mais j'ajouterai que, et j'insisterai que, sur le fait que les enseignants travaillent pour améliorer le rendement. S'ils peuvent se rendre compte que les parents se cassent en mille morceaux pour arriver à scolariser les enfants, le gouvernement fait un effort pour payer tant soit peu les salaires, il faudra que tous enseignants nous prenions conscience qu'il faut à tout prix donner le meilleur de soi-même. Parce que nous risquons d'être dans ce cycle de pauvreté. Coronavirus, c'est vrai, pauvreté des parents. Puis après, on reviendra dans l'analphabétisme des enfants. Ces enfants deviendront des parents de plus en plus pauvres et ainsi de suite. Nous resterons dans ce cycle infernal et notre pays restera sous-développé ou pauvre. Donc l'enseignant a une grande responsabilité, mais en même temps, le parent, parce qu'on y revient là-dessus. Le parent sait qu'il dépense beaucoup d'argent par rapport à son revenu. est-ce qu'il va le jeter à la poubelle comme ça s'il ne fait pas d'effort pour être regardant sur ce que fait l'enfant, ce qu'il reçoit à l'école et quel est l'impact sur la conduite de l'enfant et les performances de l'enfant. Ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte et régler dans la relation école-famille pour que à la fin de l'année, on puisse tous être contents de ce qui a été fait, les efforts des parents et en même temps les efforts des enseignants.
Et il a dit également que l'État devrait désinfecter toutes les écoles avant la rentrée.
C'est une obligation, oui. Toutes les écoles, l'État, comme il le dit, ce n'est pas seulement le gouvernement central. L'État, c'est chaque autorité au niveau local. Si l'école se trouve dans le secteur doit normalement faire un effort pour désinfecter. Et si c'est les villages s'organisent également parce que il serait difficile aujourd'hui de débloquer un fonds national pour désinfecter toutes les écoles. Et là, il faudra aussi former des gens qui iraient désinfecter, les déplacer s'ils doivent partir du gouvernement central de Kinshasa pour arriver finalement à désinfecter les écoles. Et comme on dit là, la rentrée risque de se retarder et il sera difficile d'avoir de bons résultats cette année.
Zawadi nous appelle de Bounia. Bonjour Zawadi.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre préoccupation? Nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire.
Bon, à mon avis, je vois que cette rentrée ne sera pas possible parce que j'ai deux causes. La première cause, ici en Ituri, jusque là, l'année n'a pas encore pris fin. Bon, heureusement, j'ai suivi que le ministre a dit que les 6 octobre, les élèves seront programmés. Ma deuxième préoccupation était concernant la gratuité de l'enseignement. Jusque-là, les chefs de l'État nous avaient parlé de la gratuité de l'enseignement, mais jusqu'à présent, je ne me situe pas bien si cette gratuité concerne et c'est à quel niveau. Est-ce que c'est à l'école primaire ou à l'école secondaire? Bon, si c'est à l'école primaire, mais jusqu'à maintenant, il y a les NU qui ne sont pas encore payés depuis le mois de septembre. Et comment on peut dire qu'on peut commencer l'année scolaire 2020-2021? Et à l'école secondaire aussi, il y a des NU jusque-là qui n'ont encore rien touché, mais on nous dit que l'année scolaire va bientôt commencer. Raison pour laquelle je vois que cette rentrée n'aura pas vraiment l'essence d'être.
Bien, merci Zawadi de Bounia. Paul Mboula, je reviens à vous. Vous avez suivi Zawadi de Bounia qui nous dit est-ce que la gratuité de l'enseignement concerne également les niveaux secondaires. Et il revient aussi sur les nouvelles unités qui ne sont pas encore payées. D'après lui, il peut pas y avoir rentrée scolaire tant que les nouvelles unités n'ont pas touché leur salaire.
Merci beaucoup. La gratuité concernait l'école primaire qui va jusqu'en 8e. Et le lien à établir entre la gratuité et les nouvelles unités non payées doit être cassé parce que ça ne doit pas être la condition pour qu'il y ait gratuité. Gratuité parce que les parents ne payent rien, mais les nouvelles unités qui ne sont pas payées, c'est la relation avec le patron qui est le ministère. Donc il n'y a pas tellement de lien de cause à effet qui ferait que si la gratuité n'est pas supprimée, les nouvelles unités seraient payées ou le contraire. Donc la première chose, c'est de savoir que la gratuité est effective. Là où on persiste encore, je pense que ça ne serait pas correct. C'est une décision d'État et les enfants ne doivent rien payer. Les nouvelles unités, il y en aura toujours. Il n'y a pas que ceux qui ne sont pas payés et qui ont enseigné les années passées, mais vous savez qu'il y a, il y aura des blessés, il y aura des déplacés, il y aurait certainement des anciens incompétents qui seraient. Et on serait obligé d'engager de nouvelles unités. Ce que nous allons souhaiter dans l'avenir, c'est que l'engagement des nouvelles unités soit se fasse sur base d'un test, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le test qui serait peut-être national ou local aboutirait à l'enregistrement immédiat de l'enseignant s'il est confirmé, s'il est accepté. Et là, le processus de paiement ne poserait pas réellement de problème. En plus, M. Zawa doit savoir que Bounia, c'est assez éloigné de Kinshasa et on n'a pas facilement toutes les données. Mais rassurez-vous que si tout est fait pour que les nouvelles unités soient payées, certainement qu'ils seront payés.
Bien.
J'ai eu la chance de parcourir cette partie aussi et je sais que il y a des écoles qui ne sont même pas connues et qui ne sont pas mécanisées. Hein. Des écoles vraiment que le ministre même provincial ignore. Il faut tout un recensement pour s'assurer qu'il y a une école à tel endroit et qu'il y a un enseignant qui donne cours à cet endroit-là. Donc les nouvelles unités, c'est un problème réel.
Bien. Préparatif de la rentrée scolaire 2020-2021, comment s'y prendre? Maître Boulassa, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour la Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au préparatif de la rentrée scolaire qui est fixé au 12 octobre?
Ah oui, merci de m'avoir accordé la parole. Vous savez, par rapport à la rentrée scolaire au Congo, ça a toujours posé un problème. Voire même en Afrique. Vous savez, aucun parent, n'est-ce pas, au Congo, a déjà apprécié la rentrée scolaire tout en disant que voilà, cette fois-ci, l'année a été bonne, nous avons bien préparé les objets classiques des élèves. Aucun, au Congo. Et c'est toujours chaque année qu'il y a toujours, n'est pas, des lamentations, des remords, il y a toujours... des plaires partout au Congo.
On va accueillir Steve de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly Daniel Kachapa.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux préparatifs de la rentrée scolaire?
Ah, merci beaucoup pour le sujet du jour. Le problème est que la rentrée est là. L'État congolais a fixé la rentrée pour les 12. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que les parents ont un peu de moyens pour préparer la rentrée scolaire? Nous sommes en pleine crise de Covid-19. En pleine crise. Mais il y a encore des sociétés de l'État impayées jusque-là, des arriérés de salaire. Sont les parents qui travaillent là. Ils ont aussi des enfants pour les préparer à rentrer à l'école. Est-ce qu'ils auront ou des moyens pour préparer cette rentrée-là? Et deuxième position, ils nous ont promis ici que non, ils vont payer des NI pour mettre en place la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, l'État congolais change qu'il va payer, il va prendre en charge que des enseignants de l'école primaire. Alors, c'est du secondaire. Et 7e et 8e aussi, et parmi l'enseignement des bases. Maintenant, c'est là. Vont enseigner gratuitement ou bien ils vont encore ramener la charge aux parents. S'ils vont ramener la charge aux parents, et les parents là ne sont pas payés, partout là ils travaillent, ils ne sont pas payés. Et les enseignants des nouvelles unités, ils ne sont pas eux aussi des parents? Comment ils vont préparer la rentrée scolaire? Donc je pense que c'est difficile. La gratuité est venue compliquer tout ce qu'on préparait comme le système éducatif dans notre pays. Ça a tout compliqué, bouleversé. Donc c'est difficile de parler de la rentrée parce que jusque-là, l'État congolais n'a pas honoré ce qu'il nous avait promis comme l'argent.
Bien, merci. Paul Mboula, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je commencerai par notre ami de Kinshasa qui a soulevé assez de problèmes autour de cette question de la rentrée. Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible de scolariser ses enfants quand on n'a pas été payé et quand on est nouvelle unité et qu'on n'a pas de salaire? Et est-ce qu'on doit retourner au système payant des parents? Je pense que il serait d'abord injuste aujourd'hui, dans cette conjoncture de souffrance et de pauvreté, de retourner au système de paiement par les parents. Il a même lui-même souligné ce parent qui n'a pas de moyens, qui est à plusieurs années ou de mois d'arriéré. Vous voulez lui demander de continuer à soutenir un système éducatif supporté par les parents, c'est peut-être pas très très logique. Et je pensais aussi que quand il dit que les parents n'ont pas de moyens, mais déjà quand on dit que c'est gratuit, donc les moyens ne peuvent pas tellement faire problème. Ce qui est important, c'est...
Paul Mboula, il y a certaines écoles qui sont censées observer la gratuité, mais on demande aux parents de payer un certain montant, un petit montant, peut-être 200-250 $.
Bon, si vous appelez ça petit montant, c'est vraiment relatif et je dirais que vous avez la chance d'avoir 250 $.
Bon, mais... au fait, disons que c'est pas un petit montant. Oui, il y a des écoles qui exigent ça, qui sont censées accorder la gratuité, mais les écoles, entre-temps, s'organisent pour demander aux parents de venir payer un peu d'argent ou un peu plus.
Mais là... le gouvernement a frappé l'année passée, même une année avant, a frappé les chefs d'établissement qui ont usé de cette procédure-là. Quand on veut expérimenter quelque chose de nouveau, est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit rattaché encore à la vieille technique? Non, c'est une innovation. Il faudra que l'on vive cette innovation, qu'on découvre ses failles, et qu'on puisse améliorer au fur et à mesure que l'on va progresser. On a mis plus d'une vingtaine d'années avec le système de motivation supporté par les parents. Nous savons ce que ça a donné comme résultat, et vous avez vu aussi, parce que la gratuité ne date que de deux années, mais les élèves qui ont terminé cette année ici ont commencé les études quand? Et quel est le fruit que nous avons obtenu? C'est vrai que à beaucoup d'endroits, nous avons des élèves performants, mais à d'autres, vraiment, c'est regrettable. Partout au monde, je pense que dans le monde civilisé, l'enseignement est d'abord l'affaire de l'État. Et dans ce sens-là, il faudra que l'on puisse aider l'État à arriver à prendre sa charge. Et les démarches ont commencé lorsqu'on voulait assainir les recettes de l'État, lorsqu'on veut pousser les gens à payer leurs impôts, pour que l'État dispose des moyens pour organiser l'enseignement. Je ne vois pas notre État reprendre encore le système de motivation des enfants. Ça n'a des parents, des motivations des enseignants par les parents. Ça ne nous a pas avancé. Ça a diminué l'autorité de l'enseignant. Et en même temps, ça a déstabilisé davantage le système éducatif.
Mmh. Paul Mboula, par rapport à la préparation financière, comme certains l'ont dit, on ne sent pas l'engouement de chaque année. Souvent, pendant cette période, les parents vont faire des achats, des cartables, cahiers, objets classiques et autres. Mais jusque-là, on ne sent pas cet engouement habituel, Paul Mboula.
Oui, cet engouement habituel ne peut pas s'observer suite aux difficultés financières dont souffrent les parents. Je pense que dans le contact parents-école, il y a moyen de retourner les enfants avec un minimum. Le minimum serait l'uniforme, comme on dit, on ajouterait les objets classiques. Et l'essentiel serait... le plus souhaitable parce que aujourd'hui on ne va pas chercher les lucres. Regardez également, les commerçants peuvent se plaindre aujourd'hui, mais ils vont se plaindre pourquoi? Parce que eux-mêmes sont des parents, eux-mêmes sont dans la même situation. Ils doivent pas être surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'engouement dans les marchés, dans les étalages pour acheter les objets classiques. Mais un parent qui a l'habitude de scolariser ses enfants, celui qui a payé pendant 20 ans, pendant 15 ans, 10 ans, la motivation pour que les enfants étudient, c'est comment est-ce qu'il s'est démené pour arriver à scolariser l'enfant. Si on allège un peu sa charge, avec ce qu'il peut avoir et disposer, il peut facilement, progressivement assurer la scolarité de son enfant.
Il y a par exemple certaines écoles privées qui ont revu à la hausse les frais scolaires. Ils disent à cause du contexte actuel de Covid, bon, on revoit à la hausse les frais scolaires et les parents sont parfois surpris de cette décision. Quelle attitude adopter à ce moment-là?
Bon, je ne veux pas entrer dans ce domaine-là, dans la mesure où celui qui accepte d'amener son enfant dans une école privée doit être conséquent. Il choisit telle école, peut-être pour ses performances, c'est très bien, mais il semble qu'il y a un coût à chaque produit. Donc, s'il choisit d'aller dans une école où on fait la hausse, faut-il que l'on puisse marcher contre cette école-là, celui qui a amené là-bas l'enfant, et si on peut trouver mieux ailleurs, ou encore trouver une école où on enseigne bien, mais avec un coût moins, je pense que c'est du droit du parent de faire partir l'enfant de cette école-là pour aller ailleurs.
Bien. Pour terminer, Paul Mboula, quel conseil vous pouvez prodiguer à tous les parents qui vous écoutent en ce moment, à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021?
Oui, le premier conseil, c'est de s'assurer que l'enfant passe de classe ou reprend. Donc, il faut aller à l'école et voir qu'est-ce que l'école exige. Rentrer à la maison, parler en famille et voir quels sont les moyens dont on dispose pour faire face à cette rentrée. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de parler au moins de cette année particulière. Les enfants doivent savoir que cette année, les parents n'ont pas leurs moyens habituels et il faudra qu'ils puissent doubler les efforts pour récupérer ce qu'ils n'ont pas pu avoir l'année passée et finalement se mettre à la page de la première période. Les parents doivent choisir une école où ils peuvent facilement scolariser l'enfant. Il n'est même pas beau de voir son enfant chassé de l'école. Hein, le verbe « même pas hein, », on a chassé. Vous arrêtez devant un enfant, vous lui demandez « qu'est-ce qui se passe ?» Non, on a chassé. C'est comme si on était dans une forêt où on chassait les gibiers qui étaient les enfants. Donc, c'est pas correct. Il faut être conséquent par rapport à ses propres moyens. Dans l'entretemps, il faut travailler, doubler les efforts pour trouver les moyens pendant que le gouvernement va s'occuper des enseignants. Nous, nous allons nous occuper des enfants.
Bien. Paul Mboula, éducateur à la vie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
C'est moi qui vous dis merci.
Préparatif de la rentrée scolaire 2020-2021, comment s'y prendre? Eh bien, la rentrée est fixée au 12 octobre. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et l'intersyndical des enseignants ont levé l'option de clôturer l'année en cours pour les classes montantes en faisant la moyenne des points de chaque élève pour les faire passer ou pas dans la classe supérieure. Dans les écoles, les préparatifs vont bon train, tests d'admission, confirmation, paiement de la première tranche des frais scolaires, etc. Ça, il s'agit des écoles privées, bien qu'il y a aussi des écoles officielles où on est censé respecter la gratuité, mais il y a des écoles qui demandent quand même quelques frais aux parents. Alors comment bien préparer cette rentrée dans le contexte de Covid-19? Nous avons en ligne Didier Mbangala, coach en éducation financière. Bonjour.
Bonjour.
Didier Mbangala, nous parlons de la rentrée scolaire dans ce contexte de la Covid-19. On ne sent pas encore l'engouement. Généralement, chaque année en cette période, les parents s'activent pour acheter les objets classiques, uniformes et autres. Mais jusque-là, on ne sent pas encore cet engouement. Certains affirment qu'il y a un problème d'argent. Alors, comment s'en sortir, Didier Mbangala?
Oui, merci. Je pense que tout se prépare. Nous avons eu, certes, une année compliquée qui restera dans les annales de l'humanité, de notre histoire, avec la Covid. Mais nous avons eu beaucoup de temps pour nous préparer malgré tous ces événements. Donc, je pense qu'une rentrée 2020-2021 se prépare bien avant. Donc, les parents qui se sont déjà préparés, qui ont épargné, qui ont suivi nos conseils en éducation financière, je pense qu'ils peuvent en sortir mieux que ceux-là qui veulent prendre les choses à la légère et commencer à ramener tout au gouvernement. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde où, dans notre société, où le gouvernement ne nous prend pas en charge. Sauf que cette année, depuis l'année passée, l'école et pratiquement la scolarité pour certaines classes, c'est gratuit. Donc voilà pourquoi il est important de préparer l'année bien avant que les choses ne puissent empirer.
Bien, comment préparer l'année bien avant dans ce contexte difficile? Vous savez, cette année a été perturbée par la maladie, les enfants sont restés à la maison pendant plusieurs jours et ils ont... Voilà, depuis le mois de mars, ils ont presque oublié aussi toutes les matières et les enfants ont grossi un peu partout parce qu'ils sont à la maison en train de manger, regarder la télé, ils n'ont pas, ils vont plus à l'école. Alors, dans ces contextes difficiles, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour un parent qui se retrouve avec 2, 3, 4, 5 enfants qui sont dans les écoles privées, il faut payer de l'argent à gauche, à droite?
Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. L'année s'est planifiée bien avant. La COVID, c'était pour tout le monde. Tous les parents ont connu le même problème, mais tous n'ont pas les mêmes difficultés. Ceux qui auront plus de difficultés, ce seront ceux-là qui n'auront pas suivi nos conseils en éducation financière. Nous conseillons toujours aux parents, lorsque vous planifiez l'avenir de vos enfants, parce qu'il faut d'abord planifier l'avenir, parce que certains d'entre nous ne planifient pas l'avenir. Nous sommes des géniteurs, au lieu d'être des pères futuristes qui sont en train de penser, qui pensent à l'avenir de leurs enfants. Vous devez mettre à côté, apprendre à épargner avec ce que vous avez. Si vous n'arrivez pas à épargner avec ce que vous avez, c'est que vous devez développer une autre intelligence pour pouvoir attirer, accumuler des richesses que vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'autre choix, soit vous devenez commandeur, vous sollicitez, vous êtes à la merci de n'importe quelle éventualité, soit vous mettez en mouvement pour pouvoir créer votre destinée. Vous n'avez pas les choix, soit vous épargnez, soit vous créez des richesses pour pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants. Donc, ceux-là qui auront suivi les conseils que nous produisons tous les jours à la radio au CAPI, je pense qu'ils peuvent mieux s'en sortir. Je dis toujours aux parents, nous devons être... éviter d'être des géniteurs, ceux-là qui mettent les enfants au monde sans un programme. Nous devons avoir un programme. Quel est le programme que j'ai pour cet enfant par rapport à son avenir et à son développement? Qu'est-ce que je prévois, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je conserve par rapport à son avenir, par rapport aux difficultés que cet enfant aura? Et donc, avant de commencer à procréer, je dois d'abord avoir un plan de développement de mon enfant. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a une histoire merveilleuse. La Samaritaine qui a refusé de donner l'eau à Jésus, lui disant « Notre Père nous a acheté ce puits, c'est lui qui a investi pour que nous ayons ce puits. » Donc, il était mort, Jacob était mort depuis des années, des siècles et des siècles, mais les enfants étaient restés avec une entreprise, aujourd'hui nous appellerons ça une entreprise d'eau pure, une fontaine. Donc, il avait laissé un investissement qui était pérenne. Nous devons apprendre à nos parents, les parents doivent apprendre à laisser des investissements pérennes. Quel que soit leur niveau des revenus, vous devez apprendre à créer des ressources pour vos enfants et ne pas attendre que les enfants vous prennent en charge.
Oui. Alors, coach Didier Mbangala, actuellement, il y a des banques, par exemple, qui proposent des crédits scolaires aux parents. Ils savent que les parents ont des difficultés. Bon, on vous propose un montant. Ça vous permet de couvrir les besoins scolaires de vos enfants. Quel est votre avis par rapport à cette offre?
Bon, j'encourage toujours les banques parce que les banques sont là pour que nous puissions avoir des crédits, non seulement épargner, conserver, thésauriser nos avoirs, nos revenus, mais les banques nous aident également dans le développement de nos projets. Mais si nous n'avons pour projet que les ventes ou bien la scolarité de nos enfants, je pense que nous risquons de connaître bien des devoirs dans l'avenir. Nous devons, certes, aller, si nous sommes dans certaines difficultés, aller recourir auprès d'une banque, mais nous devons développer une intelligence pour qu'avec cet argent que nous avons, que nous puissions créer d'autres richesses qui feront que nous-mêmes nous puissions devenir une banque. Parce qu'il est dit, vous prêterez aux nations. Donc nous devons accumuler des ressources. Dans un premier temps, vous pouvez demander un crédit, mais ce crédit doit entrer dans un système de développement financier pour que vous également, vous puissiez devenir une source, une référence par rapport aux autres. Donc, j'encourage ceux qui peuvent demander des crédits, et ceux qui ont la possibilité de les avoir, mais il ne faudrait pas gâcher l'avenir par rapport aux crédits que nous avons aujourd'hui, parce que nous allons tout payer sur Terre.
Bien, Christian est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021?
Oui, moi je pense par rapport aux préparatifs, d'abord reprendre les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire national est obligatoire, voire est notoire. Ma préoccupation est de savoir, et je pose cette question au gouvernement congolais, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour renforcer la qualité d'enseignement qui jusque-là est faible et ne fait que produire majoritairement, s'il vous plaît, des bornés chaque année. Obtenir, par exemple, des diplômes d'État, c'est bien, mais c'est mieux de le défendre. Moi, je pense que nous n'avons pas le privilège de dire que nous avons des coachs qui existent dans nos milieux éducatifs, très surtout aux humanités où les enfants sont maltraités, où la corruption est le premier facteur garantissant la réussite. Et à l'université, ces élèves iront avec quel esprit pour mieux préparer la rentrée scolaire? Moi, je pense que nous devons d'abord lutter contre la corruption. Ne donnons pas seulement la charge aux enseignants, mais également aux parents qui sont le meilleur éducateur par excellence pour la survie et l'essor de leurs enfants. Parce que la corruption, en tout cas, prend de plus en plus l'ampleur dans nos différents milieux éducatifs. Et c'est quelque chose que nous devons à tout prix lutter, au lieu toujours de donner cette responsabilité aux enseignants. Et les enseignants, à leur tour, doivent savoir qu'ils sont là pour éduquer et transmettre d'abord cette éducation qui va, en quelque sorte, aider les apprenants à devenir des citoyens utiles dans les sociétés et dans nos différentes entreprises, dans toute l'étendue du territoire national.
Bien, merci Christian de Kinshasa. Didier Mbangala, vous avez la parole.
Je pense que notre interlocuteur a largement raison sur ce point-là de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement pour certaines classes. Malheureusement, les échos qui nous parviennent nous découragent par rapport à la qualité de l'enseignement. Donc, le gouvernement également doit prendre des mesures et renforcer cette qualité d'enseignement pour que nous puissions avoir beaucoup de gens, certes, à l'école, mais nous puissions avoir des gens, l'élite qualifiée. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire au gouvernement. Mais laissons également le temps au gouvernement parce que ce sont des choses que nous sommes en train d'apprendre. La gratuité de l'enseignement, nous ne l'avons jamais bénéficié. Donc, maintenant, nous sommes en train d'apprendre et nous rééduquer. Comprenez que la première année, qu'il puisse y avoir bien des bévues, mais avec le temps, je pense que le gouvernement va se reprendre les choses et prendre de l'avant.
Bien. Alors, par rapport aux préparatifs, surtout à l'argent, certains parents peut-être comptent sur les ristournes, ils font les likelemba. Bon, ça peut toujours aider à payer les frais pour 2-3 enfants. Est-ce que ça, il y a d'autres moyens, d'autres sources de revenus qu'on peut activer rapidement pour faire face aux exigences scolaires?
Oui, comme vous avez dit, il y a des ristournes, il y a la possibilité des crédits à la banque, mais la vraie activité que vous avez, c'est sur cette activité que vous pouvez poser vos fondements par rapport à l'avenir. Donc, je conseille aux parents d'avoir des activités, de ne pas tout attendre du gouvernement, que le gouvernement puisse nous aider. Nous ne sommes pas dans un état hyper socialiste, nous sommes maintenant dans un monde qui est pratiquement envahi par l'esprit capitaliste, où les gens doivent, l'initiative privée est encouragée, bien que dans certains domaines, dans notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, ce que je conseille aux parents, c'est d'investir, d'épargner le peu qu'ils ont, de trouver des débouchés, parce que personne ne viendra vous aider. Vous pouvez vous plaindre du 1er au 30, vous pouvez vous plaindre, personne ne va changer et rien ne va changer votre destinée. Si vous ne décidez pas aujourd'hui vous-même d'échanger, de prendre le taureau par les cornes. Donc, vous êtes le maître de votre destinée. Votre destinée financière est entre vos mains. Vous pouvez décider de l'essor, de l'élan, de la cadence qui va prendre votre vie et bien entendu la vie de vos enfants. Si vous décidez d'attendre comme un commandeur, alors vous allez subir et vous devez subir toutes les souffrances du monde. Mais si vous vous mettez en mouvement et vous commencez à créer, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre magie. Vous devez créer des ressources autour de vous, avoir des idées pour créer des entreprises, avoir des idées pour créer des richesses, parce que les richesses se créent. La richesse ne vient pas du ciel tomber sur vous, la richesse se crée. Et Dieu nous a donné un élément très important qui est notre intelligence, car il est dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Et dans le front, on pense au cerveau. Donc, si votre cerveau se met à juguler des idées, vous mettez à créer des idées, je pense que le monde est à court d'idées et un jour, vous aurez une idée qui sera vendable et vous aurez beaucoup d'argent. Vous pourrez assumer l'avenir, assurer même l'avenir de vos enfants. Donc, je demande aux parents maintenant de commencer à créer le futur de leurs enfants, de planifier le futur. N'attendez pas demain, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire entrer votre enfant dans une école qui convient? Vous deviez avoir fait ça depuis longtemps. Donc, c'est un planning. Quels sont les plans que vous avez? Je reviens vraiment sur ça et je martèle là-dessus. Quels sont les plans que vous avez pour chaque enfant? Quel est le planning? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les choses dans le coaching? Comment vous formez vos enfants par rapport à leur avenir? Quels sont les livres que vous mettez à la portée de vos enfants pour qu'ils puissent atteindre leur destinée? Quelles sont ces choses, ces fréquentations que vous encouragez, ces pratiques que vous encouragez, ces disciplines que vous encouragez pour que vos enfants puissent atteindre l'excellence que vous voulez pour vos enfants? Non, tout s'est créé maintenant. Si vous n'avez rien créé hier, n'attendez pas que votre présent soit meilleur et n'attendez pas non plus que votre lendemain soit extraordinaire.
Bien. Coach Didier Mbangala, merci. Je rappelle que vous êtes coach en éducation financière. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Service.
Okapi Radio Okapi.
Le conseil du jour. Okapi Service.
Okapi Radio Okapi.
Le conseil du jour.
Trucs et astuces pour bien conserver les fruits et légumes. Thérèse Cancou, nous poursuivons notre série des trucs et astuces pour conserver les aliments les plus longtemps. Après l'avocat, la banane et le beurre des cacahuètes, on découvre aujourd'hui comment conserver l'ail, l'oignon et la pomme de terre. On vous écoute.
Vous venez de vous servir d'une moitié d'oignon et vous ne savez que faire de l'autre moitié. Vous craignez qu'elle s'abîme si vous la mettez simplement au frigo. Pas de panique. Coupez un petit morceau de beurre assez fin. Posez-les sur la partie coupée de l'oignon. Emballez l'oignon dans une feuille de papier aluminium et mettez-le au frigo. Vous pouvez maintenant conserver votre oignon plusieurs jours. Pour conserver aussi plus longtemps l'ail et l'oignon, mettez-les dans des sacs ventilés. Ça les empêchera de pourrir et de germer rapidement. Pour éviter que vos pommes de terre ne germent trop rapidement, il existe une vieille astuce des grands-mères qui marche à tous les coups. Comment faire? Ouvrez les sachets de pommes de terre. Déposez une pomme fruit au milieu de votre sac de pommes de terre. Mettez-en une ou plusieurs suivant la quantité de pommes de terre à conserver. Vous pouvez maintenant conserver vos pommes de terre sans qu'elles ne germent. Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas? La présence de la pomme va ralentir la formation des germes. Vous allez ainsi pouvoir conserver des pommes de terre à l'allure parfaite plus de 8 semaines.
C'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien au Capi Service qui a porté sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en RDC. Paul Badianyama a été à la mise en onde, Tati Mapuku a assuré la réalisation de cette émission, Marcel Ngombo à la coordination au micro, Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.